15h, 16h, son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours, de 15h à 16h, nous répondons à vos interrogations. Idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. On répond à toutes les questions, aucun sujet tabou dans Sans Rendez-vous, c'est promis. Il est à mes côtés, tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux problèmes de sommeil des petits-enfants jusqu'à 3 ans. Réveil à répétition pendant la nuit, bébé impossible à coucher seul dans son lit. Eh bien, avec notre invité, le docteur Michel Lecendreux, pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique de pathologie du sommeil à l'hôpital Robert Debré. On fera le point sur ces troubles et bien sûr, on vous donnera des conseils pour que toute la famille retrouve des nuits paisibles. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du traitement de l'intestin irritable. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler du don de sperme en France. Il est anonyme, gratuit et ouvert à tous les hommes de 18 à 45 ans. On vous expliquera le parcours d'un donneur, un geste primordial pour des milliers de couples infertiles. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question du plaisir au féminin.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Laetitia.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Alors, j'ai eu les résultats d'un frottis qui sont anormaux. Alors, ça m'inquiète évidemment, j'ai pris rendez-vous déjà chez mon gynécologue. Je voulais savoir si c'était fortement signe de cancer. Voilà, je vous remercie, au revoir, bonne journée.
Alors un frottis, Jimmy, c'est vrai que c'est l'examen de référence pour les femmes à faire à partir de 25 ans, tous les 3 ans, pour dépister un cancer du col, mais un frottis anormal, c'est pas un cancer à tous les coups.
Hein. Non, encore heureux, ça sert à le dépister, et à le dépister à un stade précoce pour éviter à ce qu'il arrive au stade de vraies lésions cancéreuses. Imaginez, en France, on fait 6 millions de frottis dans les cabinets de gynéco et de sage-femme et de médecins généralistes. Ce n'est pas simplement les gynécologues qui peuvent le faire. Et sur ces 6 millions, il y en a 5% d'entre eux qui ont un résultat anormal. Et parmi ceux-là, seuls 1% auront des lésions qui nécessiteront un traitement, ce qui représente environ 30 000 cas par an. Donc, toute lésion retrouvée sur un frottis n'est pas synonyme de cancer.
D'accord. Alors, peut-être quand même, rappelez-nous ce que ça veut dire avoir un frottis anormal.
Alors, un frottis anormal, ça veut dire que lorsqu'on a étalé les cellules qu'on a prélevées au niveau de l'exocol et de l'endocol, c'est-à-dire la partie interne et externe du col, on l'étale et on l'analyse au microscope. Et ça veut dire que les cellules ont une forme anormale sans en dire grand-chose de plus. On ne peut pas faire de diagnostic de cancer dessus. Ensuite, on peut faire un test si le frottis est anormal, pour rechercher l'HPV, le papillomavirus. Et si ce test est positif, si on détecte ce papillomavirus, on peut faire ce qu'on appelle une colposcopie, c'est-à-dire qu'on met des colorants, puisqu'à l'œil nu, la lésion n'est pas visible.
Au niveau du col de l'utérus
du col,
de la
femme. Et on regarde si ça réagit. Et à partir du moment où on a une réaction, on fait des biopsies, on fait des petits prélèvements qui permettent ensuite d'analyser et de poser un diagnostic éventuel ou non.
D'accord. Et si la lésion est justement précancéreuse, par exemple, il se passe quoi?
Alors, les lésions précancéreuses, on appelle ça les lésions de bas grade. C'est-à-dire qu'il y a des lésions qui sont en train d'apparaître, mais dans l'immense majorité des cas, elles rentrent toutes seules de façon spontanée. Donc, c'est pas un signe de cancer. En revanche, on sait que soit on va faire un test HPV pour le vérifier, on fera des biopsies derrière, soit on va faire une surveillance et on fera un deuxième contrôle du frottis. Si ce frottis est normal, et bien à ce moment-là, on rentre dans la surveillance normale, c'est-à-dire un frottis tous les 3 ans. Mmh. Une lésion à bas grade, dans l'immense majorité des cas, ça rentre dans l'an tout seul.
Et quand même rapidement, au contraire, si on découvre que la lésion est déjà précancéreuse, là c'est inquiétant quand même.
Alors là, c'est les lésions
même,
de haut grade, et dans ces cas-là, il y a un risque d'évoluer vers un cancer, et on estime ce risque assez rare, c'est moins de 0,5% des frottis.
Ah oui, c'est pas beaucoup.
Et à ce moment-là, on n'a pas le choix, il faut faire, donc une fois qu'on a fait les biopsies, on fait ce qu'on appelle une conisation, c'est-à-dire c'est le traitement du col qu'on va décoller tout doucement pour enlever la lésion. Mais attention, lorsqu'on touche au col, il y a un risque potentiel lors des prochaines grossesses d'accoucher de façon prématurée.
Oui, donc chez les femmes en risque à âge de procréer, on fait très attention.
Donc c'est un geste, mais parfois qui est nécessaire. Mais encore une fois, laissez votre gynécologue ou la sage-femme vous informer. Tout est très bien expliqué.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Jérémy, 42 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai des problèmes pour dormir et on m'a dit que peut-être que la camomille me permettrait de mieux dormir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Merci pour votre réponse. Bonne journée. Au revoir.
Alors Jimmy, c'est vrai qu'on parle de sommeil juste après avec notre invité, mais là, donc, c'est un adulte. La petite tisane de camomille pour bien dormir, j'avoue que moi, ça m'arrive de temps en temps. Bon, ça a l'air de m'aider un peu, mais est-ce que c'est un faux ou un tox?
Non, les études scientifiques n'ont pas vraiment tranché la question. Alors, il y en a quelques-unes qui sont penchées avec souvent des faibles échantillons. Et j'en citais une où il y a, en 2011, 28 personnes, donc c'est vraiment pas très significatif,
ouais.
À qui on a donné des extraits de camomille sous forme de capsules 2 fois par jour pour voir si ça les améliorait dans leur problème d'insomnie. Et bien, résultat, ça montre que ça les aide un poil sur leur endormissement, mais les résultats sont vraiment très 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 modestes.
Mais pourtant l'infusion de fleurs de camomille, c'est une recette de grand-mère, ça existe depuis des centaines d'années. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça efficace quand même.
Bah pourquoi pas, si ça leur fait du bien, si c'est un rituel dans lequel finalement ils sont détendus, ils ne sont pas sur leur téléphone, et puis si l'effet placebo fait qu'on dort mieux, puisque l'effet placebo ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet,
ça existe,
ça veut juste dire que votre cerveau va être réactif à quelque chose, bah moi je dis pourquoi pas, il n'y a aucun risque de prendre une camomille.
Pas d'effet secondaire, ouais.
Donc pourquoi pas la camomille, si ça vous aide à vous endormir, allez-y, ce sera toujours mieux que prendre des anxiolytiques qui sont un mauvais traitement des troubles du sommeil.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Jérémy qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du syndrome du côlon irritable. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur Michel Lecendreux, pédopsychiatre, avec qui on va parler des problèmes de sommeil des petits-enfants jusqu'à 3 ans. Je suis sûre que quelques jeunes parents attendent déjà tous les conseils avec leur petit stylo, leur cahier derrière le poste. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Lecendreux, qui va nous aider à faire dormir tous les bébés chez qui c'est compliqué, le coucher ou même les nuits, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed qui nous parle du syndrome de l'intestin irritable, aujourd'hui de la colopathie fonctionnelle. Jimmy, ces malades qui en souffrent, donc ils savent très bien, ils connaissent les symptômes hein, avec des douleurs abdominales, des troubles du transit. Mais cette fois, on va essayer d'expliquer comment soulager les gens. Certains disent que leurs symptômes sont améliorés par une éviction du gluten. Alors, on est d'accord que ce n'est pas ce qu'il faut faire ?
Oui, alors, pour autant, leurs symptômes sont vraiment améliorés par l'exclusion du gluten, mais ce n'est pas le traitement. En fait, sans s'en rendre compte, ils ont éliminé certains sucres qui sont très présents dans certaines farines qui contiennent du gluten. Et ces sucres, on appelle ça les FODMAP. Et lorsque vous éliminez ces FODMAP, eh ben, vous n'avez plus de symptômes d'intestin irritable.
Les FODMAP, alors ça, c'est la première fois que j'entends ça, c'est quoi ?
Alors, c'est des sucres, c'est des glucoses.
Vous ne l'avez pas inventé, hein ?
Non, c'est du glucide ou des hydrates de carbone qui sont peu absorbés au niveau de l'intestin et qui, par conséquent, vont fermenter sous l'action des bactéries. Et cette fermentation, elle est responsable des symptômes digestifs avec l'augmentation des productions de gaz, les ballonnements. Et c'est des sucres qu'on retrouve de plus en plus dans l'industrie agroalimentaire. Le régime consiste à éliminer ces FODMAP et chez un patient sur deux, ça aura une efficacité réelle sur ce syndrome d'intestin irritable sans prendre de traitement, puisque bien souvent, les traitements médicamenteux ne marchent pas.
Et alors, on les trouve où ces FODMAP ? Vite, dites-nous.
Alors, ceux-là, on les trouve essentiellement dans les aliments qui contiennent du lactose, certaines céréales comme le blé, l'orge, le seigle qui contiennent du gluten, certains légumes comme les asperges, le chou, le brocoli, le poireau, des fruits comme la pomme, la poire, tous les édulcorants de synthèse et puis toutes les préparations industrielles. C'est un régime qui est assez contraignant, qu'il faut faire pendant 4 à 6 semaines. Et si vous constatez une amélioration de vos symptômes, il faudra réintroduire certaines familles d'aliments progressivement pour savoir lequel est responsable réellement de vos symptômes.
Et donc, si vous dites que ces FODMAP ils sont fermentés sous l'action des bactéries, est-ce que finalement les probiotiques, ça ne pourrait pas aider aussi ?
Oui, c'est une idée. On parle souvent du microbiote et donc c'est une perturbation de la flore intestinale qui peut aussi aggraver la colopathie fonctionnelle. Mais encore une fois, il faut les tester parce qu'au cas par cas, chez certains patients, ça peut marcher, chez d'autres, ça ne marche absolument pas. Et n'oubliez pas que tous les probiotiques ne se valent pas. Il faut simplement utiliser ceux qui ont prouvé une efficacité, ceux qu'on retrouve dans certains yaourts. On ne marche quasiment pas. En revanche, on sait qu'en période de crise, lorsque vous avez des douleurs abdominales, des crises spasmodiques, les antispasmodiques peuvent vous aider. Il faut aussi régulariser le transit. La constipation peut être source de douleurs abdominales. A contrario, si vous avez des diarrhées, mangez en conséquence. L'activité sportive est évidemment un plus dans le traitement. Mm-hmm. Et puis enfin, on n'en parle pas souvent, l'hypnose est recommandée dans l'intestin irritable, réfractaire à un traitement médicamenteux classique. Donc une séance d'hypnose pourra peut-être soulager un petit peu vos douleurs. Bref, consulter, mais vous voyez qu'avec tous ces petits moyens, il y a peut-être
pas mal de pistes en tout cas de traitement. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Michel Lecendreux, pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique des pathologies du sommeil à l'hôpital Robert Debré, à Paris.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour, docteur Lecendreux.
Bonjour Mélanie. Alors, Jimmy, bonjour.
Oui, je vous le dis déjà, hein, parce que à mon avis, parmi nos auditeurs, il y a déjà certains jeunes parents qui attendent vos conseils, comme ceux du Messie. Alors, pour l'avoir vécu deux fois, hein, un bébé, voire un enfant de 2 ou 3 ans qui ne fait pas ses nuits, c'est toujours simplement l'enfer, hein, faut dire ce qui est, pour toute la famille. D'abord, justement, est-ce que c'est très fréquent ? Parce que bon, quand on le vit, on a l'impression qu'on est le seul au monde à avoir un bébé qui ne dort pas. Mais quelle est la fréquence de ces troubles-là ?
Alors les troubles du sommeil des enfants de moins de 3 ans, c'est très fréquent. C'est 20 à 30% des enfants qui ont une plainte concernant le sommeil. Enfin, plutôt les parents se plaignent que l'enfant ne dort pas. Mais si l'enfant est un peu plus âgé, il peut se plaindre lui-même. Donc, c'est des mécanismes qui se mettent en place très tôt et qu'on a intérêt à régler le plus tôt possible.
Timmy ?
D'autant plus que ça a des conséquences sur la famille. Un enfant qui ne dort pas après un ou deux ans, bah c'est le couple ou la famille qui peut être un peu perturbée.
Le couple, la fratrie, toute la famille, les grands-parents, enfin, ça fait tache d'huile. Et finalement, tout le monde dysfonctionne parce qu'un enfant n'a pas su régler le problème à un moment où on aurait peut-être pu, on aurait peut-être utilisé des techniques qui allaient être plus efficaces ou plus opérantes.
Vous les voyez beaucoup en consultation, ces gens épuisés qui viennent
vous voir.
On
les voit, les gens épuisés, on les voit dans des états de détresse. Et je
crois dépression que parfois, hein, ça peut pousser les parents.
Ça peut aller jusqu'à la dépression, et puis souvent il y a une grande culpabilité, les parents...
Qu'est-ce que je fais mal ?
Voilà, et qu'est-ce que tu fais mal ? Qu'est-ce que l'autre fait mal ?
Ah oui, c'est pas c'est lui, c'est pas...
Ou on ne fait pas la même chose, et donc il y a beaucoup de difficultés à accorder déjà.
Juste pour avoir une idée de la base, aujourd'hui on va parler vraiment des 0-3 ans, on fera peut-être une émission pour les plus grands
plus tard,
une autre fois, mais un bébé normalement qui va bien, qui n'a pas de problème de santé, admettons qu'il n'est pas allaité non plus, ou en tout cas après l'allaitement, il fait ses nuits physiologiquement à partir de quand ?
On va dire que déjà, à partir de 4-6 semaines...
Oula,
vous êtes sûr qu'on parle du
début ? Oui, on parle. Il y a déjà une consolidation des rythmes sur la nuit, donc chez des enfants très jeunes. À partir de 3 mois, on peut espérer que l'enfant a déjà acquis une consolidation de son sommeil nocturne. Et à partir de 6 mois, il devrait pouvoir faire des nuits sans être réveillé, sans appeler et sans réveiller l'entourage.
Attends, des nuits de combien d'heures là on parle?
Pardon.
Des nuits de combien d'heures? Est-ce que 2 heures c'est une nuit par exemple?
Non, 2 heures c'est pas une nuit.
D'accord, bon.
Il a quel âge votre dernier?
Il a 6 mois. Il dort 2 heures, 3 heures.
C'est ça.
Alors on va se voir bientôt.
Voilà, c'est ça. Docteur Le Sandre, on n'en a évidemment pas terminé avec vous. Vous restez là.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. Le docteur Jimmy Moret va prendre une consultation pour lui tout seul. Au conseil, pour vous aider à vous-même, votre bébé, votre petit enfant, à faire enfin ses nuits, comme on dit. On va voir d'abord que le premier secret pour qu'un bébé dorme bien, ça passe par l'art du coucher. Une étape qu'il faut parfois revoir entièrement pour qu'un bébé apprenne enfin à être autonome la nuit. On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est le docteur Michel Le Sandre, pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique des pathologies du sommeil à l'hôpital Robert Debré à Paris. Alors docteur, un enfant qui ne fait pas ses nuits, donc pas ses 6 mois, vous nous avez dit que globalement, physiologiquement, s'il n'y a pas de maladie, un enfant de 6 mois est capable de faire ses nuits. S'il y a tous ces problèmes-là, d'abord, j'imagine, il faut quand même exclure un problème de santé.
Oui, oui, absolument. Là, c'est au pédiatre, au médecin généraliste de regarder si l'enfant a un problème de santé quelconque, peut des allergies,
qui l'empêcherait de dormir,
peut un reflux, ça peut être un trouble respiratoire au cours du sommeil, ça peut être des douleurs, un inconfort. Donc tout ça doit être bien vérifié. Et ensuite, on regarde s'il y a des conditions qui font que l'enfant ne dort pas.
Justement, alors une fois qu'on a vérifié tout ça, un enfant en gros qui passait 6 mois ne fait pas ses nuits, sans culpabiliser personne, bien entendu, puisque même Jimmy et moi, on a eu des enfants qui ne dormaient pas. C'est souvent la faute des parents quand même, on peut le dire. Sans culpabiliser, c'est
voilà,
pas grave, on fait tous des erreurs.
La faute, je ne sais pas si c'est une faute, je crois que c'est la faute des médecins qui ne font pas de prévention.
Je suis d'accord
et
avec vous.
Et la faute, parce qu'on devrait dire, voilà, comment faire dormir votre enfant, c'est votre premier, votre deuxième, votre troisième. Parfois, ça n'a pas de place dans la fratrie, ça n'a pas de rapport. Mais donner des indications, comment permettre à l'enfant de dormir seul.
Jimmy ?
Et souvent liés à des mauvaises habitudes qu'on a prises ou qu'on n'a pas instaurées, de bonnes habitudes ?
Oui, oui, oui. Très tôt, on a mis en place des attitudes qui ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire que généralement, les parents ont tendance à vouloir endormir l'enfant. Et l'endormir dans des conditions où il va être rassuré. Mais si on fait ça et si on prolonge ces attitudes, l'enfant ne va jamais savoir dormir tout seul.
Et ça s'apprend d'apprendre à dormir tout seul, ben,
on
c'est
apprend
ça
à sortir des bras de sa maman, à sortir du câlin, à ne pas s'endormir au sein, à s'endormir sans prendre un biberon, et donc à développer de l'autonomie.
Et
donc,
à partir de quel âge on peut commencer à les sevrer de tous ces petits rituels qui parfois nous font du bien à nous
aussi. C'est une question personnalisée.
Non.
Ben, vraiment à partir de 4-5 mois, et si possible avant. C'est-à-dire que dès que même le petit bébé, le jeune bébé, si on lui apprend à ne pas s'endormir au sein, on gagne un peu de temps parce qu'il va pouvoir enclencher son sommeil dans son berceau.
Alors justement, je crois que le rituel du coucher, l'art du coucher, c'est vraiment le point de départ hein, pour un bébé qui va faire une bonne nuit, qui va faire ses nuits. C'est quoi les erreurs vraiment à ne pas faire au moment du coucher ? Vous avez dit le sein, tout ça. Un rituel, c'est bon d'en avoir une petite chanson, un petit câlin avant de dormir, une histoire ?
Oui, on a droit à un court rituel. J'aime bien dire, ça n'a pas vraiment de sens, mais le rituel, c'est 1 minute par année d'âge. Alors les parents, généralement, ils restent 30 minutes, 45 minutes.
Un bébé d'un an, ça dure 1 minute.
Voilà,
un bébé de 3
minute,
ans, comme Jimmy, son deuxième, c'est 3 minutes le rituel du
c'est-à-dire
coucher.
Qu'on voilà, on ne prolonge pas parce que si on prolonge, l'enfant va réclamer la présence. Il va insister pour que le parent reste. Et les parents, ils restent volontiers.
C'est quoi, Jimmy? Mais
justement,
bah,
si, si on dort un petit peu à côté d'eux, si on s'allonge quelques minutes, c'est une mauvaise idée, ça?
Mais ça, c'est pas une bonne idée, Jimmy, pas du tout. Donc, il faudrait que les parents puissent être assis à côté du lit ou du berceau, si c'est un berceau, mais pas trop de contact. On ne laisse pas sa main.
Les câlins, c'est à un autre moment, en fait, c'est ça?
On fait les câlins à un autre moment, avant. Mais au moment du coucher, le coucher doit préparer à la séparation.
Ça doit être très rapide, alors, c'est ça. Hein, c'est juste, c'est quoi le bon rituel, par exemple, pour un bébé d'un an?
Bah, 2-3 minutes.
2-3 minutes, on lui change la couche, on lui chante une chanson, une minute, et hop, c'est réglé.
Si on chante bien, oui.
C'est ça.
Et on lit combien d'histoires? Parce que moi, j'aime bien lire 2-3 histoires, parce qu'une me dit que ce n'est pas suffisant. Non, on s'arrête à une? Non.
Moi, j'aime bien que les histoires soient faites ailleurs, par exemple au salon. Et une fois que vous avez terminé vos histoires, ça raccourcit vraiment votre coucher. C'est-à-dire que l'enfant, il sait que le lit, ce n'est pas pour être en éveil, ce n'est pas pour écouter quelque chose, c'est pour initier son sommeil et aussi pour être en sécurité sans la présence du parent.
Et le repas, il faut qu'il soit pris bien avant. Vous disiez, il peut y avoir un biberon avant de dormir, entre guillemets,
ah oui,
bien
mais
avant.
Alors,
en fait,
voilà, il faudrait que le biberon soit au moins une heure avant pour éviter les problèmes de reflux, pour éviter surtout l'association endormissement-prise alimentaire.
Docteur Lecendreux, nous allons continuer évidemment cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue notre plongée dans les nuits difficiles des parents dont les enfants ne font pas leur nuit, les réveillent encore 4, 5, 10 fois, ou même tout ça à 1, 2 ou même 3 ans. Ça peut se régler vraiment, et je vous le dis, c'est du vécu, en appliquant les bons conseils que l'on va évidemment vous donner tout de suite après. À rester avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Michel Lecendreux, pédopsychiatre et magicien, non je plaisante, coordonnateur du Centre pédiatrique des pathologies du sommeil à l'hôpital Robert Debré à Paris. Je dis magicien parce que quand on arrive à résoudre des problèmes de sommeil chez un bébé, pour les parents, ça peut ressembler à ça, à de la magie, effectivement. Alors ça n'a rien d'être de la magie, ça n'est pas du tout de la magie d'ailleurs. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que ça commençait par l'art du coucher, ça on a fait le point, mais alors un bébé qui se couche, il y en a certains qui arrivent à s'endormir, mais parfois qui se réveille après 10 fois la nuit, il faut y retourner, ça pleure et on y retourne. Ça aussi, c'est l'enfer. Enfin, moi, j'en ai des souvenirs affreux.
C'est
donc,
épuisant. C'est... Les parents partent en burn-out.
C'était 8 fois, 10 fois par nuit, c'était affreux.
Et d'ailleurs, on a pris des parents qui étaient des bons dormeurs. On les a exposés pendant des mois ou des semaines à des cris d'enfants. On en a fait des parents insomniaques. Pourquoi on en fait des parents insomniaques? Parce qu'ils passent leur nuit à être en alerte. C'est-à-dire qu'ils vont attendre le prochain éveil, le prochain cri. Et le prochain stimuli. Donc la magie, elle est où? Eh bien la magie, elle consiste juste à enlever l'expectation que l'enfant va appeler. Et ça, on peut le faire assez facilement. Il y a la technique des minutes.
Alors expliquez-nous votre technique que moi j'ai appliquée, hein, j'avais consulté à l'époque et j'ai appliqué cette technique, ça a très bien marché. En 48 heures, tenez-vous bien. Donc allez-y, expliquez-nous comment ça se passe. Mon bébé pleure une première fois, il est 1h du matin, on fait quoi?
La première question à tous les gens qui viennent en consultation, c'est comment s'endort l'enfant? Parce que si l'enfant n'a pas d'autonomie à s'endormir quand vous le mettez au lit, il n'en aura pas quand il se réveille dans la nuit. Et les éveils nocturnes chez les enfants de moins de 3 ans, tout le monde a noté, sont physiologiques. C'est-à-dire que c'est normal qu'ils se réveillent vers 1h, 3h, 5h. Ce sont des horaires normaux. En revanche, si l'enfant signale qu'il est réveillé et nécessite une intervention, en général la même que celle qu'il a au moment de le coucher, là on va vers un trouble, par conditionnement.
Alors, on fait quoi pour déconditionner? Alors, le dressage.
On rééduque, on éduque et on crée un apprentissage. Et l'apprentissage, il va le garder toute sa vie. Vous n'êtes jamais revenu.
Jamais, voilà. C'est vrai. J'avoue, je vous ai consulté, donc je veux faire bénéficier de tous ces bons conseils à tous nos auditeurs, parce que chez moi, chez ma petite fille de 13 mois, ça a marché en 48 heures. On a tout changé, mais j'ai dû prendre m'armer d'un chronomètre. C'est le seul outil qu'il faut avoir, en fait. Hein.
Un chronomètre, on peut, mais c'est surtout l'idée qu'on va différer nos interventions, on va les rendre de moins en moins rapides, laisser du temps à l'enfant, parce que l'enfant a besoin d'un espace-temps. Il a besoin de son temps à lui, et pas d'être envahi par l'anxiété du parent ou l'intervention du parent.
Oui.
Mais à contrario, on ne va pas non plus laisser pleurer une demi-heure jusqu'à ce qu'il soit en sanglots, rouge, écarlate, en disant « je ne céderai pas » avec ce rapport de force qu'on peut vouloir instaurer au bout d'un moment en disant « allez, ce soir on est ferme, on laisse pleurer pendant une heure et puis advienne que pourra. »
Non, ce n'est pas une bonne technique.
Jamais
elle existe, elle est
ça.
Décrite, ça s'appelle le « cry it out », c'est-à-dire on laisse pleurer. Mais le problème de faire ça, c'est que c'est très pénible pour tout le monde et que la fois d'après, on ne va pas relaisser l'enfant pleurer. Donc il n'aura pas appris. Il aura appris que s'il pleurait longtemps, on allait venir le chercher.
Donc vous répondez aux sollicitations, votre technique c'est de répondre, il pleure, on répond, mais on met de plus en plus de temps à chaque fois. La première fois, on met une minute. Moi je sais, vous m'aviez dit, vous mettez un chronomètre, une minute le premier soir. J'ai mis le chronomètre, j'ai trouvé que cette minute était très très longue. Et on y va et on fait quoi avec l'enfant.
Oui, parce que généralement, on n'a pas de notion du temps, c'est-à-dire qu'on se précipite. Plus on vient vite voir l'enfant, plus l'enfant va être récompensé rapidement.
On fait quoi quand on agit au bout de la minute là ? Qu'est-ce qu'on fait dans la chambre ?
Alors, ce que je dis généralement, c'est qu'on reste très peu de temps. On ne reste pas plus de 10 secondes. L'intervention doit être très brève. Elle doit juste consister à recoucher l'enfant comme on a fait la première fois.
On lui remet la tétine éventuellement s'il l'a perdue ?
Si on veut, mais la tétine, il vaut mieux parfois l'éviter. Sevrer progressivement. Mais pas de biberon, pas de prise alimentaire.
Moi, je lui donnais de l'eau parce qu'il pleurait.
Là. Même l'eau, pas plus interdit. Que le lait parce que c'est un biberon quand même.
Rien dans la bouche, en fait, c'est ça.
Ben, ça dépend de l'âge de l'enfant. On peut parfois. Mais on essaye petit à petit de sevrer les interventions.
Donc ça dure 10 secondes, je le recouche, je repars.
Oui.
10 minutes après, il repleure.
Oui, s'il pleure toujours, parce que je dis au bout de 10 secondes, je m'en vais, il pleure toujours.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on allonge d'une minute à chaque fois. Et on fait 4 interventions. 5 maximum. Si au bout de 5, l'enfant ne s'est pas apaisé, on l'emmène ailleurs, au salon, et on fait un temps calme.
Donc on le prend dans les bras, on ne le câline pas.
On ne le garde pas dans les bras pour l'endormir.
On le pose par terre au milieu du salon.
On le laisse on le met sur son tapis d'éveil. On lui fait faire une petite activité si on veut. Ça dure 2-3 minutes. Et après, on recommence une autre séquence de coucher.
Donc on ne craque pas en le mettant dans notre lit en se disant « Oh là là, je suis fatigué, demain, une journée m'attend. »
Il faut qu'on évite le lit partagé. C'est très important.
Donc on le reprend.
Le co-sleeping, tout ce qu'on veut.
On le reprend après qu'il ait fait cette séquence de salon. On le remet dans le lit et on reprend une séquence.
Voilà.
On attend 2 minutes, 4 minutes à chaque réveil.
Et ce temps entre les interventions, il appartient aux parents. C'est-à-dire que vous ne guettez pas le prochain éveil. Il faut que vous arriviez à vous occuper de vous-même et à vous désengager un petit peu.
Alors, je vous avoue, moi, je n'ai jamais réussi à m'occuper de moi-même. J'ai écouté pleurer pendant ces moments où il fallait attendre. Et mine de rien, j'ai respecté les temps à la lettre. Et j'ai eu qu'à faire qu'une séquence. Elle s'est endormie la première nuit au bout de 5 fois. La deuxième nuit, 3 fois. Et ensuite, elle n'a plus jamais pleuré.
Alors, j'ai l'habitude de dire que si vous obtenez une fois l'endormissement, vous avez fait la moitié du chemin. C'est-à-dire que l'enfant a déjà engagé un apprentissage. Ensuite, ça va très vite. Vous n'avez juste pas à réintervenir dans l'autre sens. Les rechutes, c'est quand vous reprenez l'enfant dans votre lit. C'est quand vous l'emmenez à l'hôtel et qu'il revient dormir avec vous. Des choses comme ça.
Timmy ? Est-ce qu'il y a un intérêt à laisser des veilleuses, des lumières allumées, parfois dans le couloir, ça rassure les enfants ou c'est une attitude inadapté en leur faisant comprendre qu'il y a peut-être un risque et qu'il faut laisser une lumière allumée ou un doudou, des choses comme ça ?
En réalité, ce n'est pas un trouble anxieux. C'est un trouble par conditionnement. C'est un trouble qui est un peu fabriqué. C'est une interaction qui fait que ça dysfonctionne. Si on modifie l'interaction, on rassure l'enfant. Et au contraire, on ne va pas le rassurer en mettant plus de lumière. On va le rassurer en lui disant que tiens, tu peux y arriver par toi-même. Une fois qu'il a compris, c'est pour ça que ça va très vite. Il y a un peu de magie des fois.
L'enfant, il a compris très vite. C'est vrai, hein.
Et il se dit tiens, mais je vais pouvoir m'attribuer ce comportement. Une fois qu'il l'a fait, tout rentre très vite dans l'ordre.
Mais il faut suivre la méthode à la lettre quand même, parce que si on commence effectivement à finalement donner un biberon au troisième réveil, ça casse tout le cycle en fait, de ce qu'on essaye de mettre en place. C'est un apprentissage à l'autonomie nocturne, hein. C'est ça le nom de la méthode en quelque sorte. Hein.
Oui, c'est une méthode très comportementaliste, on peut l'aimer ou pas l'aimer. C'est un peu ferme, mais les résultats sont tellement impressionnants, et aussi dans la durée. C'est-à-dire que les enfants continuent à développer un bon sommeil.
Mais je sais pas, vous avez un enfant de 1 an, vous lui expliquez tout ça, il ne comprend pas grand-chose, il va quand même intégrer ce que vous lui dites ?
Il faut amener les enfants en consultation. Moi, j'avais amené ma fille, elle avait 13 mois à l'époque.
Ils comprennent, ils savent qu'ils sont là pour ça, ils savent que quelque chose va se produire, qu'il y aura un changement. Le changement, il ne va pas être brutal, mais il va être dans un sens où ils vont être aidés. Et je crois qu'ils ont aussi besoin de cette aide.
Mais à 13 mois, vous leur expliquez, hein, c'est ça qui est assez fou. On se demande ce qu'ils peuvent bien comprendre à cet âge-là, mais ils réagissent comment les enfants quand vous leur expliquez tout ça ?
À 13 mois, ils entendent. Ils entendent ce qui se passe. Ils voient la situation. Et à tous les âges.
On peut utiliser ça jusqu'à 3 ans à peu près, c'est ça ? 3-4 ans ?
Jusqu'à 3-4 ans. Et ensuite, on peut aller au-delà en adaptant bien évidemment la technique. Mais même chez les insomniaques adultes, on a des techniques comportementales qui visent à les faire dormir en autonomie sans s'auto-stimuler par les lumières, les écrans, etc.
Et si vraiment cette méthode, elle ne marche pas, parce qu'il y a peut-être des réfractaires quand même, c'est qu'il y a autre chose, hein, c'est ça ?
Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, bien entendu, à tous les coups. Mais il faut reconsulter et voir s'il n'y a pas un trouble associé.
Merci beaucoup, docteur Lecendreu, d'être venu sur notre plateau. Je suis certaine que de nombreux parents qui vont tenter d'appliquer vos conseils dès ce soir vous seront extrêmement reconnaissants.
Merci
encore. Europe 1. Dans un instant, notre chronique « Les mots du quotidien ». Et aujourd'hui, on va parler du don de sperme. En France, il est anonyme, gratuit et ouvert à tous les hommes de 18 à 45 ans. On vous expliquera le parcours d'un donneur, un geste primordial pour des milliers de couples infertiles. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du don de sperme. Savez-vous quels sont les hommes autorisés à donner? Combien de fois peuvent-ils donner? Et comment tout cela se passe? Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. Pardon. On écoute son micro-trottoir.
Pour un homme, le fait d'aller à la banque du sperme et de faire don de sa récolte, qui ensuite doit être, j'imagine, plongée dans de l'azote pour qu'on puisse la conserver.
Un homme décide de donner du sperme pour que d'autres familles, d'autres couples puissent faire des enfants.
Ça peut être une fois par semaine.
Je n'ai jamais assisté à un don de sperme, mais... Les quelques documentaires ou reportages ou films aussi hein, qu'on peut voir, a priori, ça a l'air d'être assez simple.
J'imagine que lorsqu'on est dans une pièce, on doit nous mettre un certain nombre de choses qui vont nous permettre de faire arriver un petit peu l'excitation et des magazines, des vidéos peut-être. Et donc l'idée, c'est de cracher dans un tube.
À partir du moment où on est adulte, où on a plus de 18 ans, jusqu'à 50, 60 ans.
Pas avoir eu de MST.
J'espère que c'est pas payé. Parce que je trouve que pour la beauté du geste, c'est quand même mieux que ce soit bénévole.
C'est bénévole, on va en parler. Alors Jimmy, d'abord, première question, qui peut donner son sperme? Et donc c'est surtout ses spermatozoïdes.
Oui, on peut donner si on est un homme, si on a 18 à 45 ans, si on est en bonne santé, qu'on ait ou pas des enfants. Il y a trois grands principes qui régissent le don en France, que ce soit de spermatozoïdes ou d'organes. Il est anonyme, gratuit et de libre consentement. On doit signer un petit formulaire pour dire qu'on est d'accord. Et si on a un partenaire ou une partenaire, il faut aussi qu'elle signe ce consentement.
Et dire qu'elle est d'accord. Alors, pourquoi ce n'est pas rémunéré d'ailleurs? Parce qu'il y a des pays où ça se fait.
Oui, mais c'est interdit par la loi française. Tout don est gratuit, que ce soit le don de sang, le don d'organes. C'est finalement pour éviter la marchandisation du corps humain. Forcément, ce sera les plus vulnérables qui seraient tentés d'aider les autres. Alors que là, c'est un principe de solidarité. Et quel que soit le don en France, il est anonyme et gratuit. C'est un peu une fierté et un modèle français qu'il faut continuer de préserver.
Alors attention Jimmy, on va passer à la pratique. Comment ça se passe le don de sperme? Alors pas techniquement
oui,
parlant,
administrativement,
mais administrativement
vous
parlant.
Alors, on prend rendez-vous.
Je ne vous demande pas une démo.
Je pense que tout le monde se sait comment ça marche. On prend rendez-vous, on informe de son consentement, on nous fait quand même quelques examens médicaux,
bien sûr,
à la fois pour être sûr qu'on est en bonne santé et puis qu'il n'y a pas d'anomalie avec notamment des infections sexuellement transmissibles, le VIH. On fait ce qu'on appelle un karyotype pour analyser génétiquement les chromosomes du spermatozoïde.
Il n'y a pas d'anomalie pour le bébé.
On a un entretien avec un psychologue, on fait un des premiers recueils, parce qu'il n'en faut pas qu'un seul, il faut
plusieurs
dons pour avoir une bonne
quantité suffisante. C'est très généreux le don de sperme. Ouais.
Et puis à la fin, au bout des 6 mois, on est recontacté, puisqu'il y a une période d'incubation de certains virus. On veut être sûr qu'ils ne vont pas se développer entre le moment où vous avez fait le don et le moment où ils vont être ensuite donnés à d'autres personnes. Mm-hmm. Et puis à ce moment-là, vous avez ce coup de fil, 6 mois plus tard, et puis les choses sont faites.
Et petite question technique, qui peut parfois inquiéter certains hommes qui se posent la question, est-ce que je donne ou est-ce que je donne pas? Combien d'enfants peuvent être issus d'un même donneur?
Alors, la
pas
loi...
98, j'espère.
Non, pour le moment, c'est un peu moins. La loi de bioéthique actuellement en vigueur limite à 10 le nombre d'enfants issus d'un même donneur. Le tout, c'est d'éviter tout risque de consanguinité au sein de générations futures. Imaginez un homme qui aurait 50 enfants, s'ils avaient ensuite des enfants les uns avec les autres, il y a un risque ensuite de malformation.
Effectivement, alors on sait que la loi actuelle, elle devrait changer bientôt, mais en tout cas en ce qui concerne aujourd'hui, l'anonymat il est de pair, mais est-ce que s'il y a un problème médical par exemple chez le donneur, on en informe le bébé qui en a été conçu?
Exactement, là pour l'instant c'est la nécessité médicale. La loi va peut-être évoluer, donc s'il y a une anomalie chromosomique ou une maladie héréditaire, il faut évidemment en informer les personnes, donc à ce moment-là on peut discuter de lever le secret médical.
Très bien, mais en tout cas la personne n'est pas identifiable. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et pour ceux qui voudront en savoir plus, un site internet www.dondusperme.fr, c'est le site officiel de l'Agence de la biomédecine.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question du plaisir des femmes. Ont-elles réellement la capacité de jouir plusieurs fois lors d'un rapport? On va tout vous dire. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio. Catherine Blanc qui est psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous?
Je vais très bien, Mélanie, et vous?
Mais parfaitement.
Jimmy aussi?
Très bien, je vous remercie.
Allez, bah du coup, on attaque la question du jour. La question de Thomas, un garçon. Ça change un peu parce qu'on a beaucoup de filles en ce moment, j'ai l'impression. Alors, la question de Thomas, je vous la lis. À l'heure de la revendication d'équité femmes-hommes, j'ai une plainte à formuler. Attention. Pourquoi les femmes ont-elles la capacité à jouir plusieurs fois dans le même acte sexuel alors que nous, les hommes, ne pouvons qu'une fois? Catherine, d'abord, est-ce que Thomas a raison? Les femmes peuvent vraiment jouir plusieurs fois et les hommes qu'une seule fois?
Non, c'est pas si net que ça. D'abord, il y a des femmes qui ne jouissent pas plusieurs fois.
Qui
ne
jouissent jamais aussi.
Et qui ne jouissent jamais, notamment. Et puis, il y a des hommes qui sont tout à fait capables de jouir à nouveau, sans d'ailleurs, pour certains, perdre leur érection entre un acte et une éjaculation et un nouvel acte derrière. Ouais. D'autres la perdent et la retrouvent, ce qui ne pose aucun problème. Ceci étant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils s'offrent le droit, l'envie de récidiver ou est-ce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont vécu ? C'est une chose tout à fait...
Parce que pour les hommes, c'est forcément une récidive. C'est pas dans le même acte sexuel, il n'y a pas de...
Oui, parce qu'en fait, on n'est pas
fait... C'est physiologique, quoi.
Oui, on n'est pas fait pareil et on ne fonctionne pas pareil. Et en fait, d'ailleurs, on pourrait se poser la question si ce sont vraiment plusieurs orgasmes que vivent les femmes ou si c'est le même qui redescend, une sorte de vague.
Une montagne russe.
Voilà, et elles auraient tendance à dire que ce sont plusieurs orgasmes parce qu'entre-temps, comme elles l'ont perdu, elles sont reparties dans, dans un autre moment de jouissance. Donc en fait, se pose plutôt la question de savoir la capacité qu'a un être humain à pouvoir jouir et à s'accorder de jouir et puis après à s'accorder de recréer derrière ou pas, parce qu'on peut se contenter très bien de ce qu'on a vécu sans être obligé de faire une performance.
Oui, parce que déjà un orgasme chez une femme,
c'est déjà pas mal, non.
Faut avant de chercher à en vouloir 3-4 un peu.
C'est top.
Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on voudrait qu'elle en ait 3-4? Est-ce que c'est la pornographie qui met ces images dans la tête des hommes en disant il faut qu'elle jouisse plusieurs fois alors que l'homme, la scène se termine par l'éjaculation de l'homme et puis on passe à une autre scène?
C'est ça, c'est parce qu'en fait, l'homme, il faut mesurer son pouvoir. C'est-à-dire, si je fais jouir une femme, c'est que j'ai beaucoup de pouvoir. Et si je la fais jouir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc.
C'est une bonne simulatrice.
Voilà. Mais
c'est ça.
Mais c'est surtout qu'il se dit qu'il l'a épuisée. Parce qu'il y a une idée dans notre société, depuis la nuit des temps, que la femme est insatiable. Et que donc, si on peut la faire jouir jusqu'à ce qu'elles disent stop, puisque comme son sexe, d'ailleurs on parle du sexe féminin en parlant des lèvres, donc c'est comme une bouche qui voudrait manger les hommes. Alors si on la fait jouir 1000 fois, elle aurait plus faim et elle serait enfin une femme rassasiée et non dangereuse. Donc il y a ce fantasme de l'homme puissant à pouvoir faire jouir suffisamment pour pouvoir mettre hors d'état de nuire, en quelque sorte, le féminin vorace.
Et en plus de ça, une relation peut être satisfaisante chez une femme, même si elle n'a pas eu d'orgasme. Elle peut prendre du plaisir sans atteindre cet orgasme que tout le monde cherche à avoir.
Bien sûr. Alors évidemment, comme dans les médias dont nous faisons partie, nous parlons d'orgasme, etc., se pose pour toutes celles qui ne le vivent pas la question de « je n'en suis pas capable, donc suis-je normale ?» et « est-ce que je loupe pas quelque chose ?» Mais si on ne met pas de pression aux individus, reconnaissons les uns et les autres que c'est bon de faire l'amour, que c'est bon de se lever, de s'embrasser au sens de se prendre dans les bras et de se pénétrer, de se faire du bien, déjà dans nos contacts, des gens dans le hug que représente le contact, qui plus est quand on se mêle et s'en mêle l'un à l'autre. Et on n'est pas obligé d'atteindre en effet l'orgasme pour avoir vécu un moment d'intimité qui est puissant et qui a de la valeur, ô combien, bien sûr.
Donc il ne faut pas que les hommes cherchent absolument à faire jouir maintes et maintes fois leur compagne, c'est ça, ça ne sert à rien en fait.
Non, c'est surtout qu'ils soient là, c'est souvent que parce qu'elles jouissent, c'est facile de dire aussi que les femmes doivent jouir, parce qu'eux n'arrivent pas à aboutir ou à advenir. Mmh. Et derrière, ils diront, tu as vu, j'ai pu attendre autant que ça pour te le faire jouir moult fois.
Mais on en revient quand même à eux à chaque fois.
Oh, bah oui, mais je crois que de toute façon, bon, il n'est pas question de jeter la pierre, ni aux hommes ni aux femmes, je crois que tous nous arrivons dans la sexualité avec notre propre valeur narcissique et notre besoin d'éprouver notre qualité et notre valeur dans notre aptitude ou dans ce que l'on apporte à l'autre.
Jimmy ?
Vous nous avez dit lors d'une chronique précédente qu'il était normal qu'un homme, après une éjaculation, soit un peu fatigué et dorme parce que c'était physiologique. Est-ce qu'on peut avoir la même chose chez la femme qui, après avoir eu un orgasme, décide de tout arrêter en disant « bon, c'est bon, moi aussi je suis... non pas satisfaite ou comblée, mais je m'endors, on passe à autre chose, laisse-moi tranquille » et qui ne réclame pas forcément de deuxième ou troisième round.
Bien sûr, mais je crois que... Alors d'abord, elles n'ont pas toujours envie de dormir, parce que souvent, c'est plutôt une source d'excitation et de parole, etc.
Mais vous l'avez dit, en fait, c'est pour ça que je me souviens très bien.
c'est vrai qu'il y a, dans cette façon d'envisager la sexualité féminine, toujours l'idée qu'elles auraient de l'envie envie de l'envie, alors qu'il y a des moments, elles en ont plus envie. D'abord parce que c'est devenu ultra sensible, si elles ont vécu un orgasme par exemple, ou parce que c'est laborieux pour elles et qu'elles n'en peuvent plus. Quand même, le rythme cardiaque, la respiration, la tête qui tourne, l'hyperoxygénation. À un moment donné, il y a une envie de faire autre chose que d'être simplement l'objet de l'excitation et de l'urgence de quelque chose qui n'advient pas chez son partenaire.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée au mois sans alcool, c'est en janvier. On vous donnera plein de conseils pour vous préparer à commencer l'année sans une goutte d'alcool. On verra quels sont les avantages pour notre santé de réduire drastiquement sa consommation de vin, cocktail ou de bière.
15h, 16h, Sans Rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.